Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens pour un nouvel épisode, le podcast de Benjamin et Maxime. Je suis Benjamin et je suis avec mon cousin Maxime. Salut Maxime.
Salut, bonjour à tous.
Et alors on se retrouve pour un nouvel épisode sur un sujet, vous avez peut-être vu dans le titre, la justification. Peut-être que vous savez ce que ça veut dire et vous êtes intéressé de voir comment on va parler de ce sujet, et peut-être que vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire, et dans ce cas, vous inquiétez pas, on va prendre le temps de définir ça. Mais on voulait parler de cette doctrine qui est au cœur de la foi chrétienne. Martin Luther, le réformateur, disait que c'est la doctrine sur laquelle l'Église tient ou tombe. Et on va voir comment, quel impact ça a dans notre vie chrétienne. On est convaincu que cette vérité de l'Évangile est glorieuse et qu'elle impacte profondément notre vie chrétienne, notre vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on a vécu, Maxime et moi, et on aimerait juste parler de ça, voir les implications que ça a. Donc peut-être pour commencer, Maxime, est-ce que tu voudrais définir en quelques mots ce qu'on entend par, ce que la Bible entend par justification? Qu'est-ce que c'est la justification?
Ouais, la justification, j'ai noté quelques mots de définition. C'est Dieu qui déclare juste des pécheurs sur la base des mérites du Christ et qui, par la foi, par le moyen de la foi. Mmh. Et chaque mot est important et il faut le peser. Quand on dit déclarer juste, c'est pas comme rendre juste, c'est pas la personne qui devient juste en elle-même, mais c'est une déclaration. Quand on dit juste, c'est pas simplement innocent, on remet à zéro, mais c'est une justice, c'est quelque chose de positif, un vrai acompte quoi, qui est versé pour eux. Sur la base des mérites de Christ, c'est de là que provient cette justice, c'est celle du Christ même qui nous est donnée. Et celui qui est uni à Christ par la foi, c'est vraiment la foi, le moyen que Dieu a établi pour nous unir au Christ et nous communiquer toutes ces richesses, dont la justification.
Ouais, excellent. Et je trouve que c'est bien ce que tu précises là, que c'est pas seulement une remise à zéro. Parce que je pense qu'on est, en tant que chrétien évangélique, on est au clair sur, voilà, on est pardonné de nos péchés par la foi en Christ, et c'est excellent. Le poids de nos péchés n'est plus sur nous, et c'est vraiment magnifique. Mais en fait, ça va plus loin que ça, dans ce que la Bible présente, dans la lettre aux Romains, par exemple, ou dans d'autres versets, dans 2 Corinthiens 5:21, etc. C'est pas seulement que nos péchés sont pardonnés, c'est pas seulement une remise à zéro, c'est pas simplement que le tableau est effacé, que le casier judiciaire est vierge, mais c'est aussi que, positivement, on est crédité, on a été imputé par la justice de Christ. Enfin, la justice de Christ nous a été imputée. Donc, non seulement Jésus a pris nos péchés, on peut en parler comme Luther en parlait d'un joyeux échange, donc Jésus a pris sur lui nos péchés, il les a portés sur, il a pris sur lui la condamnation de notre péché à la croix, il a payé pour ça, c'est payé, c'est fait, etc. Mais non seulement ça, mais aussi il y a eu un autre échange, c'est que Jésus nous a donné sa justice, on est revêtu de la justice de Christ, de sorte que quand Dieu nous voit, il nous voit comme il voit Jésus, entièrement parfait, entièrement pur. Et ça, c'est juste tellement encourageant, c'est, on a à notre compte toutes les œuvres bonnes, la justice parfaite de Christ, on est revêtu de cette justice. Et ça, je pense, ça change la manière dont on voit notre vie chrétienne. On se disait qu'on allait dire aussi pourquoi on pense que c'est important. Parce que sinon, on risque de vivre une vie chrétienne avec un fardeau, toujours. Oui, le poids de notre péché a été enlevé, mais on se dit, mais maintenant, je dois prouver à Dieu que je mérite la grâce qu'il m'a faite. Ce qui est un non-sens, parce que la grâce ne se mérite pas. Mais inconsciemment, on peut penser, voilà, maintenant, je dois vivre comme un chrétien pour montrer à Dieu que je veux rester à ce niveau-là, je veux rester à ce stade-là. Et on va essayer de toujours faire des trucs pour plaire à Dieu, etc. Et on oublie juste totalement que, non, c'est Dieu nous voit comme il voit Jésus, entièrement parfait, entièrement pur. Et il y a ce beau verset de Romains 5, 1. Et souvent, quand je suis juste à bout, je lis ça ou je récite ça. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, juste de se rappeler, mais tout a été fait. C'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin d'être dans une course effrénée pour se justifier.
Ouais, tu parles de joyeux échange, je crois que c'est Luther qui utilisait cette expression. Et j'aimerais bien lire un passage d'un père de l'Église qui parle de ça, c'est Diognète, enfin c'est une épître à Diognète, puisqu'on ne sait pas qui l'a écrit, qui est vraiment belle à ce sujet. Il dit « Car quoi d'autre pouvait couvrir nos péchés que sa justice? Comment nous qui étions sans loi et impies pouvons-nous être justifiés, si ce n'est par le Fils de Dieu seul? Oh, quel doux échange que les actes impies de beaucoup soient cachés par celui qui était juste et que la justice d'un seul les justifie. »
Ouais, c'est excellent, c'est super encourageant, et parce qu'effectivement en fait c'est pas simplement que devant Dieu il doit pas y avoir de péché, mais c'est aussi que pour vivre dans la présence de Dieu on doit être crédité d'action juste, d'action bonne, et donc c'est merveilleux, c'est là où on voit aussi encore la merveille de l'évangile, du plan de Dieu qui par la mort de Christ déclare juste des pécheurs et le fait de manière totalement juste sans violer sa justice. Ouais. Et peut-être, Maxime, est-ce que tu pourrais partager pour toi personnellement, dans ta vie chrétienne, quelles sont les implications? On le disait, pour la raison pour laquelle on veut parler de ce sujet, c'est parce qu'on est convaincu que ça a d'énormes implications sur la vie chrétienne. On a parlé de quelques-unes, mais quelles implications dans différents domaines tu pourrais partager par rapport à ça?
Ouais, alors comme tu as dit, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense à deux principales. Quand je pense à ma vie personnellement. La première, certainement, les implications quant à la prière. La justification, c'est le moteur et c'est ce qui me permet de prier, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de rappeler dans toutes mes prières, hein. Je pense que c'est ce qu'on dit quand on dit au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que c'est parce qu'on est représenté par lui, parce qu'on est justifié, parce qu'on est caché en lui, qu'on peut nous approcher du Père. Même Calvin, quand il commente le Notre Père, il dit que si on appelle notre Dieu Père, c'est déjà la justification qui est là. Au début de la prière, quand on dit notre Père, on est en train de confesser qu'il nous a adoptés comme ses enfants. Et Dieu n'adopte que des justes, des personnes qu'il a justifiées. Et il a une belle phrase sur la prière à la fin de son commentaire de la phrase, juste des mots, notre Père. Il dit « Ainsi, toutes les fois que nos hésitations nous paralyseront, souvenons-nous de supplier Dieu, de corriger la faiblesse qui nous rend craintifs et de nous guider et pousser à prier avec confiance dans cet esprit de liberté. » Et pourquoi il dit ainsi au début? Parce qu'il vient d'exposer toute la justification et le fait que en Christ, on est accepté. Et c'est particulièrement précieux quand on se sent mauvais, nul, pour plein de raisons. Soit parce qu'on a un péché qu'on a commis et qui nous revient en tête, soit parce que simplement, comme tu le partageais dans l'article, on se sent pas productif, ou il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons, une critique qu'on a reçue. Il y a mille et une raisons pour lesquelles des hommes peuvent se sentir nuls. Mais il y a encore plus de raisons de se sentir juste aux yeux de Dieu, c'est qu'il l'a déclaré dans ses promesses, dans sa parole, et ça doit être au début et à la fin de toutes nos prières.
Ouais, et ça, je pense, c'est hyper. Ça change vraiment la manière dont on voit la prière. C'est pas. On vient devant Dieu avec les mérites de Christ, pas avec nos propres mérites, pas avec notre propre vie. Et ça me fait penser à ce verset dans la lettre aux Hébreux. Je pense que c'est Hébreux 9 ou Hébreux 4, je sais plus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est un trône de grâce duquel on s'approche, c'est pas un trône où nos œuvres vont être mises sur une balance pour savoir si on a vraiment le droit d'accéder à Dieu. Mais non, en fait, on vient sur la base des œuvres de Christ, sur ce que Christ a fait. Et ça nous motive, ça nous encourage à prier. Et à ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait en off, là, c'est vrai que quand notre vie de prière va pas bien, peut-être qu'on a oublié la doctrine de la justification, qu'on a oublié qu'on a un bon Père Céleste là-haut qui se plaît à entendre ses enfants. Et j'ai été encouragé par ça dernièrement en lisant le livre « Prier, c'est pourtant simple » de Tim Chester, je pense. J'ai lu ça à côté de moi, là, ouais, c'est ça. Et je vous encourage vraiment à le lire, c'est la même, et il met bien ça en avant. Et là, on voit une autre application de la justification aussi.
Ouais, et Calvin disait aussi à ce sujet, que si on ne vient pas au Père, en fait, on est en train de le déshonorer, parce qu'on est en train de se dire soit il n'est pas bon pour entendre mes besoins, soit il n'est pas puissant pour y répondre, mais c'est un manque de foi en fait. Et s'il est bon, s'il nous a justifiés, on n'a vraiment aucune raison de ne pas prier quand on est chrétien. On n'a aucune raison d'être dans la crainte, puisqu'on est, on est accepté comme on ne peut pas l'être plus que ce que l'on est en fait.
Ouais, exactement. Vas-y.
Est-ce que tu as encore des choses à dire là-dessus? J'allais passer à l'autre raison.
Pour la prière, ouais, c'est bon, vas-y, ouais.
D'accord. L'autre sujet auquel j'ai pensé, c'est le comment on doit voir les autres croyants et le pardon vis-à-vis d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand quelqu'un nous a blessés, en particulier un frère, ce dont on peut se souvenir, c'est que c'est un saint, quelqu'un qui est justifié aux yeux de Dieu, et ça nous sera, nous souvenir de la justification à la fois de tout ce que Dieu a dû nous pardonner et du fait que Dieu l'a pardonné, même pour l'offense qu'il vient de me faire. Ça peut être vraiment une puissante motivation pour pardonner à notre tour. Tu vois, c'est Paul qui dit « Comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même.
Ouais. »
Et c'est vraiment la fondation de notre propre pardon.
Ouais.
Colossiens 3.
Ouais, exactement. Ouais. Non, ça c'est vrai. Se rappeler la grâce que Dieu nous a faite, ça nous pousse à montrer cette même grâce à d'autres.
Et moi, j'imagine que tu as aussi des...
Ouais, ce que je pensais par rapport à ça, là où ça m'encourage beaucoup dans ma vie chrétienne... en fait, c'est large, ça implique plein de choses, mais c'est par rapport à ce qui fait notre valeur, ce qui fait ma valeur. Et je pense que j'avais écrit un article là-dessus sur la REB, mais on a tendance en tant qu'être humain à mettre notre valeur, ce qui fait notre valeur dans toutes sortes de choses, que ce soit l'approbation des autres, ce que les autres pensent de moi, que ce soit ma productivité, ce que je fais, que ce soit mon statut. Et du coup, quand ces choses s'écroulent, on réalise peut-être pas ça, que notre valeur est là-dedans, mais quand ces choses s'écroulent, et ben là, on se sent pas bien, on se sent oppressé, notre vie s'arrête. Parce que notre valeur n'est pas placée au bon endroit. Par exemple, quand quelqu'un nous fait une critique ou nous dit quelque chose qui ne va pas, ou alors quand on a raté quelque chose ou on voulait bien réussir, et ben là, on se sent mauvais, on se sent mal, on repense à ça et notre monde s'écroule parce que notre valeur n'est pas placée au bon endroit. Mais si notre valeur est placée dans ce que Christ a fait à la croix, dans cette déclaration de la part de Dieu par laquelle il nous déclare juste, dans le fait que je suis juste aux yeux de Dieu, que Dieu me regarde avec un regard de faveur, alors là, ça change tout, en fait. Et juste dans ma propre vie, quand j'ai des moments comme ça, de juste prendre du recul et de me dire, mais en fait, Benjamin, pourquoi est-ce que tu es en train de t'énerver? Pourquoi est-ce que tu es en train de déprimer? De quoi? Mais prends du recul, regarde. Dieu t'a déclaré juste. Tu es juste aux yeux de Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Mon avenir éternel est assuré. Enfin, comme le dit le cantique en anglais, c'est mieux qu'en français. Tout est bien, tout va bien pour mon âme. It is well with my soul. En français, c'est quel repos céleste, c'est bien aussi. Mais cette idée, mais tout va bien pour mon âme. Je suis juste aux yeux de Dieu. Alors, j'ai rien besoin d'autre. Et ça, je pense, ça a des implications hyper concrètes dans notre vie de tous les jours. Et ça peut.
Ne serait-ce que dans la paix qu'on a. Dans ce qu'on vit, quoi.
Ouais. Exactement. Ouais. Et peut-être avant de te laisser dire un dernier mot pour la fin, si tu veux, vu que le temps avance, on pourrait se demander, mais est-ce que ça, c'est un encouragement à la paresse de dire, mais voilà, on est juste aux yeux de Dieu, pas sur la base de ce qu'on fait, est-ce que dans ce cas, bah voilà, on fait plus rien, etc. Bah, en fait, non, parce que comme on l'a dit, c'est ça qui va nous motiver notre vie de prière, c'est ça qui va motiver notre attitude vis-à-vis des autres, c'est ça qui va motiver tellement de choses. Et la grâce de Dieu, elle est au cœur de la vie chrétienne, c'est ça qui motive la vie chrétienne, c'est ça qui pousse à la sanctification. Et si quelqu'un voudrait dire que cette justification nous pousse à pécher, bah, il peut relire l'Épître aux Romains où Paul répond beaucoup mieux que nous à cette question.
Chapitre 6
en particulier, effectivement. Et donc, c'est pas du tout ça l'idée, mais ouais. Je sais pas si tu avais une chose, Maxime, à partager ou un mot de conclusion.
Ouais, je me disais que peut-être pour ceux qui ont plus une fibre théologique parmi ceux qui nous écoutent, on avait pensé à partager des sujets qu'on avait étudiés récemment et dans lesquels on avait encore vu la même doctrine sous d'autres mots, sous une autre forme, soit éclairer ce sujet, soit être au cœur de ce sujet. Et récemment, je lisais Klein, Meredith Klein, celui qui fait de la théologie biblique, et il partageait, il étudiait en fait les signes d'alliance dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et il montre comment ces signes représentent de manière typologique un jugement, bref, l'idée d'être jugé. On voit que Christ parle de sa mort comme d'un baptême, il dit « Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire, le baptême dont je vais être baptisé ?» Et sur la base de ça, il montrait comment dans notre baptême, on subissait symboliquement le jugement de Dieu, on était couvert par sa colère en quelque sorte, mais de manière symbolique. Et il disait que quand on ressort de l'eau, l'idée c'est que maintenant le jugement est derrière nous. Et c'est encore une autre manière de dire qu'on est justifié, qu'on est après le jugement, en fait. Au lieu de dire que le jugement n'est pas passé sur nous, Klein dit qu'il est derrière nous, qu'on l'a traversé et qu'on en est sorti sain et sauf, en quelque sorte, parce qu'on est couvert du Christ qui, lui, a traversé cette épreuve. Et je me disais que c'est encore plus beau de voir encore dans le baptême la justification, se souvenir de son baptême en se disant « le jugement, c'est derrière moi ». Et maintenant, je ne suis plus en période de probation. Dieu n'est pas en train de tester, voir s'il va me justifier. C'est fait, c'est acté.
Ouais, super encourageant. Ouais. Excellent. Bah alors, on vous laisse avec ces belles paroles. Et on espère que ça vous encourage dans votre vie chrétienne. Reposez-vous sur ce que Christ a fait à la croix. Je pense que c'est la chose principale qu'on aimerait transmettre par ces podcasts Cousins Théologiens, encourager à embrasser de tout cœur une vision où Christ de la vie chrétienne où Christ est au centre. Parce que c'est ça qui donne le vrai moteur pour la vie chrétienne, même si Maxime n'aime pas ce mot moteur. Tu m'avais dit que ça faisait pas très jeune.
Mais... Ah oui, non, c'est vrai que ça fait un peu...
Mais c'est pas grave.
Mais c'était plus pour un titre de conférence, ça fait vraiment...
Ok, bon, voilà. J'avais écouté Maxime à l'époque. En tout cas, merci beaucoup à vous, merci pour vos mails, vos encouragements, les commentaires, c'est super de voir que ça vous encourage. On peut annoncer le sujet du prochain épisode, Maxime ?
Ouais, un gros, gros sujet.
Voilà, on va parler du calvinisme.
Je vais dire le mot.
Ah, j'ai dit le mot en premier. On va parler du calvinisme. Enfin, il était temps après presque un an de Cousins Théologiens, il fallait qu'on aborde.
On s'est retenu vraiment. Hein, vraiment
on s'est retenu. À chaque épisode, Maxime disait allez, le prochain c'est le calvinisme. Il disait non, on attend. Et là, enfin, on va lâcher les lions. Non, non. Mais on veut aborder ce sujet et voir pourquoi c'est important, même si c'est controversé, et quel impact ça a aussi sur notre vie chrétienne, un peu comme on l'a fait en fait sur la justification. Donc rendez-vous le 15 juillet. Et merci à tous et rendez-vous sur parlafoi.fr et christemavie.fr pour nous suivre plus en détail. À bientôt.
Salut à tous. À bientôt.